Merci, merci. Ça, c'est pourquoi ? C'est pour la salle ? On en a besoin ? Alors, je ne vais pas vous parler de mon livre, parce que je trouve que ceux qui ont envie de le lire n'ont qu'à le lire, et puis ceux qui ne le lisent pas, pourquoi je leur en parlerai ? Ça n'a pas tellement d'intérêt. Je vais vous parler d'autre chose, je vais vous parler quand même de la cryptomnésie et du transfert, mais disons des points de réflexion que ça a soulevé chez moi, c'est-à-dire l'étude ou le côtoiement de Théodore Flournoy pendant 5 ans, et puis celui de Freud pendant 30 ans, ça m'a posé quelques problèmes, des problèmes très généraux, et c'est ces problèmes généraux qui ne sont pas clairs pour moi que je vais vous exposer pour essayer de voir où ça nous mène, et qui sont en somme une espèce de parallélisme que je vais essayer de tracer entre ce que j'ai découvert chez Théodore Flournoy, que j'appellerai peut-être Flournoy, si ça ne vous ennuie pas, pour abréger, et Sigmund Freud, que j'appellerai Freud de son côté, car ils ont beaucoup de points de ressemblance. Les deux étaient des professeurs qui étaient d'esprit tout à fait scientifique, et je dirais que dans leur conception de la science, les deux partageaient une idée précise, c'était celle d'un déterminisme absolument rigoureux. Et cette notion de science et de déterminisme, pour commencer par là, est une notion relativement récente. C'est-à-dire que c'est récemment, c'est-à-dire au XIIIe siècle, c'est relativement récent dans l'histoire du monde, qu'on a commencé à unifier le concept de science. Jusque-là, comme vous le savez, les sciences n'étaient pas du tout unifiées. Il y avait plusieurs sortes de sciences qui s'attachaient à des domaines totalement différents. Par exemple, les sciences naturelles qui s'occupaient de la nature étaient essentiellement la physique. Par contre, une autre science, la géométrie, qui était découverte par les Grecs, et avant aussi, et les Arabes, qui s'occupaient de triangles, de ronds, de carrés, de volumes, etc., avaient comme conception l'idée que ça ne correspondait pas du tout à la nature, laquelle nature ignore totalement ses formes géométriques. On ne trouve pas dans la nature de lignes droites, on ne trouve pas de cercles, on ne trouve pas de triangles, etc. Et alors la géométrie était une science à part, qui était réservée à l'étude de la voûte céleste. Parce que là, la voûte céleste regorge de ce genre de signes géométriques, des ronds, des cercles, des lignes droites, quand trois étoiles se suivent, des carrés, et la lune ou le soleil parfaitement ronds. Et cette science qui s'occupait du ciel n'était pas en contradiction, par exemple, avec la religion, qui aussi pouvait localiser Dieu dans le ciel et dans ce miracle qu'on pouvait voir toutes les nuits de cette perfection stellaire par rapport à cette espèce de sauvagerie qui règne sur la terre au point de vue de la nature. Et ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle, et plus tard, le XIVe, XVe, avec Copernic, avec Kepler, avec Gassendi, puis finalement avec Galilée, que les savants ont commencé à avoir une vision plus globale de ce qu'ils entendaient par la science, et que le concept de science a pu naître, même chez des gens assez religieux, comme Copernic et Kepler, un concept de science qui permettait quand même d'avoir une science unique qui réunissait à la fois les mathématiques, la géométrie, la physique, etc. Et ceci jusqu'à Galilée, qui, lui, comme vous le savez, a mis donc en doute le problème de la Terre par rapport aux astres, et qui, par conséquent, a mis aussi en doute, avec ses collègues précédents, le fait que la voûte céleste était quelque chose d'uniforme dans laquelle pouvaient se réfugier Dieu et les anges, et que ce côté magique de la voûte céleste était en train d'être récupéré au nom de la science par les scientifiques comme étant leur problème à eux. Ce qui fait que la science a renoncé à s'occuper des causes finales et des causes premières, puisque le ciel, qui était le lieu des causes finales et des causes dernières et des causes premières, était devenu un objet scientifique. Et pour en finir avec cette introduction, on peut dire que c'est Newton qui a couronné le tout quand il a réussi à faire ses théories du mouvement, de l'accélération et de la chute des corps, où la science comme principe de causalité, qui était destiné là à trouver, à découvrir des lois de la nature, qui étaient des lois qui seraient définitives, qui nous permettraient de connaître la nature, et par conséquent d'échapper à l'imprévu, où Newton a réussi à formuler la science moderne avec comme prémisse, donc, avant tout, la mécanique. Ceci dit, donc, le surnaturel et les croyances pouvaient être réduites par la science, laquelle a comme fonction essentiellement, au moyen de la connaissance, de réduire l'inintelligible à l'intelligible, de réduire l'imprévu au prévu. On peut dire aussi, là pour nous, de réduire la folie à quelque chose de scientifique. Mais on s'aperçoit tout de suite que ce n'est pas si facile de réduire la folie et de la réduire dans les normes de la science, puisque la folie va aller se loger même dans la science elle-même, avec les folies déterministes et les folies de type les folies résonantes. Alors, ceci pour dire que dans ce contexte de scientificité univoque, Flournoy et Freud ont toujours dit qu'ils se considéraient comme rigoureusement déterministes, et ont toujours dit que leur fonction scientifique était de ne pas s'intéresser à ce qui était au-delà de ce qui pouvait être atteint par la science. Autrement dit, les croyances, la religion, la philosophie. Vous savez comment Freud les a réduites, et Flournoy, lui aussi, essayait à tout prix d'éviter le piège des croyances pour pouvoir avancer dans sa recherche professeur de psychophysiologie. Comme il disait, si on veut parler des nombres ou du temps ou de l'espace, il est inutile de vouloir commencer par découvrir quelle est la cause dernière du nombre ou du temps ou de l'espace, parce qu'on y resterait toute sa vie et on ne pourrait jamais faire un pas dans les sciences. Autrement dit, on les élimine. Et pourtant, quand on voit le sujet que j'ai proposé à Nikos, le sujet de la cryptomnésie et le sujet du transfert, déjà là, on se pose des tas de questions par rapport à cette scientificité, à ce déterminisme. La cryptomnésie, chez Flournoy, il l'a découverte, enfin, je ne sais pas quand il l'a découverte, mais il l'a déjà décrite en 1887-90, elle a été écrite en 1900 très clairement, à propos de ce que des miracles que produisait son médium Ellen Smith. Et la cryptomnésie, c'est donc une hypothèse explicative de ces phénomènes surnaturels que présentait Ellen Smith pour les réduire à des phénomènes naturels. Et il disait que ces phénomènes surnaturels pouvaient être expliqués par une mémoire, la mémoire d'Ellen Smith, une mémoire qu'il dit cryptique, qu'elle aurait oubliée, c'est-à-dire des souvenirs oubliés qui provenaient de son enfance et qui auraient été oubliés à cette époque-là sous l'effet des passions, et notamment des passions sexuelles de l'enfant. Donc, vous reconnaissez bien quelque chose là-dedans. Et cette cryptomnésie, on peut se poser le problème tout de suite. Est-ce que c'était une caractéristique normale ou anormale, une caractéristique universelle ou non? Là, on n'a pas de réponse parce que justement, Ellen Smith est quelqu'un dont Flournoy disait que ses talents de médium l'avaient sauvé des anomalies, lui avait permis d'avoir une vie normale. Autrement dit, c'était une femme normale qui avait des dons surnaturels que Flournoy a voulu expliquer par cette hypothèse de la cryptomnésie. Alors, on voit tout de suite que l'hypothèse de la cryptomnésie va mal avec un déterminisme rigoureux, puisque elle n'est pas réduisible à une certaine logique, puisqu'elle défie le temps et qu'elle défie l'espace, puisque en même temps, une adulte peut être en même temps une enfant, peut être en même temps en train de vivre aux Indes et de vivre chez lui, et il y a une incongruité dans les manifestations cryptomnésiques qui, malgré l'effort scientifique, font qu'on ne peut pas les faire entrer dans le cadre de la science. Le transfert chez Freud, on pourrait dire que c'est exactement la même chose. C'est aussi une hypothèse explicative que Freud fait de certains phénomènes humains qui apparaissent, disons, chez ses patients. On ne sait pas si c'est normal ou si c'est pas normal, mais en tout cas, l'explication est la même. Ces phénomènes, c'est aussi les réminiscences de quelques événements passés, oubliés, qui surgissent dans le présent et qui ont été oubliés ou refoulés sous l'effet des pulsions sexuelles pour Freud. Donc c'est la même chose. Et là aussi, dans cette théorie, on s'aperçoit que le transfert est quelque chose de complètement fou au point de vue du déterminisme scientifique, puisque la même personne peut vivre en même temps une relation avec son analyste, avec une mère qui est déjà morte depuis longtemps, et une relation dans un espace qui est celui où elle la vit, et cet espace est décrit comme l'espace dans lequel elle a vécu il y a des années de ça, peut-être dans un autre pays. Autrement dit, le transfert contient aussi tous ces éléments illogiques qui font que on peut se poser la question de pourquoi Freud et Flournoy tenaient tellement au déterminisme absolument rigoureux, puisque dans leurs outils même de leur travail, ce déterminisme apparaît comme mis en doute déjà dès le début. Mais ce sont quand même des concepts scientifiques en soi, puisqu'ils ont une fonction théorique qui est la même que celle de la science, c'est-à-dire de rendre intelligibles des phénomènes inintelligibles, et puis une fonction pratique qui est aussi la même que celle de la science, c'est un levier scientifique pour agir sur ces phénomènes. Alors, comment peut-on, pour faire un pas de plus, qualifier le déterminisme propre aux sciences naturelles, dont l'idéal est la mécanique de Newton? Comment peut-on qualifier ces théories qu'employaient Freud et Flournoy de manière très générale? Alors, on peut dire que ce sont des théories empirico-analytiques, c'est-à-dire qu'elles sont empirico parce qu'elles sont expérimentales et analytiques parce qu'elles visent à analyser les expériences avec tout un système de lois, sans pour autant faire des synthèses de type extra-scientifique, de type philosophique, de type religieuse ou théologique, bref, de type non-scientifique. Donc ça reste empirico-analytique, la recherche de lois naturelles. Et les méthodes employées sont les méthodes classiques déjà décrites par Aristote, qui sont les deux méthodes hypothético-déductives et les méthodes inductives. Alors, en gros, moi, ce que je vois dans le travail qu'on fait, la méthode hypothético-déductive, c'est-à-dire qu'on ferait des hypothèses concernant ces lois de la nature, et que ces hypothèses étant mises en rapport avec les expériences, on peut en déduire certaines lois qui vont être confirmées par la suite et qui sont des lois qui n'appartiennent plus aux savants qui ont fait l'hypothèse, mais qui appartiennent précisément à la nature. À l'inverse, les hypothèses, les théories inductives partent directement de l'expérience, et c'est sous le fait de l'expérience et de l'observation que le théoricien va pouvoir imaginer des théories. Et il faut tout de suite reconnaître que ces théories, ces hypothèses inductives, ou cette théorie inductive, à mon avis, implique quand même une théorie sous-jacente, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quelle expérience. Et je crois que tous les savants, même dans les théories inductives, partent de certaines expériences qui impliquent qu'à l'origine, ils ont quand même déjà une idée qui vient d'eux, qui fait que l'induction à partir de l'expérience, ce n'est pas à partir de n'importe quelle expérience. Alors, dans ce cadre des deux théories, des deux méthodes plutôt, la méthode hypothético-déductive et la méthode inductive, comment est-ce que Freud et Flournoy renforcent leur idée du déterminisme? Alors, chez Flournoy, il a eu toujours une théorie à laquelle il s'est tenu d'un bout à l'autre, qui est une théorie classique à l'époque, qui est la théorie du parallélisme. Donc, c'est le parallélisme psychophysiologique, qui est une théorie parfaitement claire et déterminée, qui veut que tout événement mystérieux, psychique, doit parallèlement correspondre à un événement physique, lequel pourra être appréhendé et décrit scientifiquement. Donc on ne va pas nager dans des sphères mystérieuses du psychique ou des humeurs, on tâche toujours de le traduire par quelque chose de quantifiable, mécaniquement quantifiable, qui est le côté physique du parallélisme psychophysique. Et chez Freud, pour renforcer le déterminisme qui a été mis en brèche, comme je vous l'ai montré, par le transfert, il s'agit de trouver aussi des explications du même type, physique et mécanique, et ces explications, on les trouve dans la théorie des pulsions, même si nous savons que les pulsions appartiennent à la métapsychologie, donc à la sorcière, les pulsions représentent précisément quelque chose de tout à fait mécanique, de type mécanique newtonienne, avec les investissements, les contre-investissements et les surinvestissements. Alors là, on a de nouveau une position scientifique de Freud. Et ceci, on pourrait dire, avec les pulsions et avec la théorie paralléliste, on peut dépouiller tant la cryptomnésie que le transfert de leur côté mystérieux, de leur côté surnaturel. Et les observations, les expériences et tout ce qu'ont fait Freud et Flournoy, et toutes les lois qu'ils ont découvertes dans ce contexte-là ont une caractéristique cumulative, c'est-à-dire qu'elles s'ajoutent les unes aux autres, elles ne s'annulent pas les unes les autres, simplement c'est un acquis scientifique qui se fait peu à peu selon ces deux théories. Maintenant, la psychanalyse que Freud voulait science naturelle, il est évident que maintenant on ne peut plus se contenter uniquement du côté science naturelle, qu'il faut tenir en compte le côté moral ou le côté science humaine. Alors, ce que je dirais en bref, c'est que le fait qu'il s'agit de science humaine ou de science morale fait que tant Flournoy que Freud ont le respect de l'objet de l'expérience. L'objet de l'expérience étant humain et l'objet de l'expérience étant humain avec sa subjectivité. Ainsi, par exemple, on peut voir que Flournoy a toujours tenu en haute estime sa médium Helen Smith, que ça lui a dû jouer des tours, parce qu'il a toujours considéré avec respect que c'était une femme qui comme elle le disait elle-même, n'avait aucune mauvaise pensée, était parfaitement pure, et il ne pouvait pas imaginer qu'elle pouvait nourrir des pensées de type érotique, par exemple, alors qu'elle s'en défendait. Il respectait sa subjectivité. Quant à Freud, par exemple, avec Anna O, même s'il pensait que le symptôme était une supercherie, il n'a pas du tout pour autant négligé le caractère humain d'Anao. Il a respecté sa souffrance, il s'est intéressé à elle, et il n'a pas du tout forcé dans ses retranchements. Il a toujours montré, tenu compte de sa subjectivité comme femme et non pas comme objet d'expérience. Donc, c'est le passage de l'expérience pure, qu'on pourrait dire, ou de la théorie pure à la théorie pratique, ou des sciences naturelles aux sciences morales, qui pose tout un problème, qui est bien vieux, puisque déjà Kant, avec la critique de la raison pure et la critique de la raison pratique, montre essentiellement que de la raison pratique, ce qui différencie la raison pure, c'est tout le problème éthique, le problème moral. Le fait qu'il s'agit de sciences humaines pour les deux implique donc une éthique. Et à ce moment-là, on peut faire une distinction assez simple des sciences fondamentales telles que les mathématiques. On peut les pousser jusqu'à la folie, rien ne nous empêche d'employer les mathématiques indéfiniment. Les sciences naturelles, où on doit se localiser avec l'objet d'expérience qui est la nature, mais qu'on peut jusqu'à un certain point maltraiter. On peut couper un arbre pour voir comme il est fait, on peut casser une pierre pour voir ce qu'il y a dedans. Les sciences humaines impliquent une toute autre éthique, même si l'éthique des sciences naturelles existe, puisqu'il n'est plus question ni de pousser l'expérience jusqu'à la folie, ni de couper Netflix ou Alao pour voir ce qu'il y a dedans. Peut-être quand elles sont mortes, on va découper les cerveaux en rondelles. En tout cas, du temps de leur vivant, il est exclu qu'on se passe de cette éthique. En outre, du fait qu'il s'agit de sciences humaines, il y a une autre implication, c'est l'implication de l'observateur. Ça, c'est le passage du positivisme au néopositivisme, qui est assez connu. Mais c'est une observation de l'observateur, une inclusion de l'observateur jusqu'à un certain point. On sait par exemple qu'en physique, on ne peut plus faire aucun calcul physique sans que l'observateur soit pris, inclus dans l'expérience comme sujet d'expérience, sinon l'expérience ne marche pas. Mais ceci veut dire qu'il y aura un troisième observateur qui pourra observer ou discuter de l'expérience et de l'expérimentateur. Et d'autre part, l'expérimentateur en physique, si on en tient compte, on en tient compte comme d'un objet naturel aussi, c'est-à-dire d'un objet, disons pas naturel, mais d'un objet scientifique raisonnable. Et on ne tient pas compte des humeurs du physicien. On tient compte de sa présence qui peut altérer l'expérience, mais s'il est de bonne humeur, s'il est de bonne humeur, s'il a honte ou s'il a des pensées sexuelles, ça ne passe pas dans l'expérience. Et alors, ce néopositivisme, Théodore Flournoy et Sigmund Freud, je crois, restent résolument néopositivistes sur ce point. C'est-à-dire que tous les deux refusent leur participation affective. Dans la cryptomnésie, Flournoy la localise chez le médium, et pour éviter qu'il participe de manière affective, pas seulement de manière scientifique et donc intelligible, il a deux principes dont il parle, c'est-à-dire qu'il dit qu'il faut d'abord confesser ses tendances intimes en disant par là qu'il faut se les rendre conscientes. Et que c'est seulement dans la mesure où il devient conscient, par exemple, d'un penchant amoureux pour la personne dont il s'occupe, qu'il peut dire ça, c'est à exclure, parce que ça ne fait pas partie du domaine de la science et de ce dont le professeur est chargé par l'université. C'est à exclure. Et deuxième exclusion, je reviendrai plus tard, il faut exclure la transcendance, c'est-à-dire exclure les causes finales et les causes primaires et les causes premières pour pouvoir rester dans le cadre de la science. Freud fait la même chose par rapport à cryptomnésie en ce qui concerne le transfert. Le transfert, il le localise chez l'analysant. Et il a aussi deux défenses ou deux règles techniques qu'on peut voir qui sont parallèles à celles qu'a dites Flournoy. D'abord, les règles techniques qui font que la psychanalyse, vous le savez, il faut travailler comme un chirurgien travaille sans se laisser dévier par quoi que ce soit d'autre. Enfin, vous connaissez toutes ces règles techniques qui sont bien précises, qui font qu'il ne peut pas se laisser aller à ses passions comme il voudrait. Et deuxièmement, il invente le complexe d'Édipe. Donc, le complexe d'Édipe, c'est une élaboration du mythe d'Édipe. Le mythe d'Édipe est essentiellement historique, est essentiellement un mythe qu'on pourrait appeler transcendantal ou surnaturel. C'est la sédimentation de toutes sortes d'histoires qu'on a oubliées, qui donne le mythe d'Édipe. À partir du mythe d'Édipe, où Freud trouve un intérêt, il fait un complexe d'Édipe qu'il décrète comme étant un complexe scientifique. Il ne s'agit plus de mythe historique, il s'agit du petit enfant qui, pour le garçon ou pour la petite fille, font ci et ça avec leurs parents, etc. Vous connaissez le complexe d'Édipe, qui vient là comme une théorie, qui est une théorie essentiellement scientifique. Là, il y a un problème qui se pose avec la théorie du complexe d'Édipe, je dirais comme ceci, et que je soumets à votre sagacité, parce que moi j'ai déjà de la peine à le formuler, c'est-à-dire que quand Freud décrit son complexe d'Édipe, on peut voir deux aspects différents. Un aspect où l'existence de l'enfant édipien serait une chose naturelle. Tout enfant aurait été, ou tout garçon, disons, aurait été un petit garçon qui aurait voulu coucher avec sa mère, tuer son père et qui aurait eu peur de la castration. À ce moment-là, si c'est le cas, Freud ne fait que, coup de génie, découvrir ce que personne, pendant des milliers d'années, n'aurait jamais découvert. Et, à partir de là, il décrit le complexe d'Édipe. D'où le complexe d'Édipe est une loi universelle, parfaitement déterminé, qui provient de ce qui s'est passé et ce qu'on n'avait pas découvert jusqu'alors, donc la vie du petit enfant dans le sens édipien. Et alors, ça serait l'application de cette loi naturelle de l'Édipe qui se passerait dans la psychanalyse. Et on pourrait avoir une psychanalyse de type scientifique où donc on cherche à reconnaître, à expliquer ce complexe d'Édipe qui a déjà existé, mais qu'on n'avait pas découvert, et à appliquer cette loi de manière à avoir un levier pour agir sur la personne dont on s'occupe. L'autre aspect, c'est imaginer que Freud, autre coup de génie, à partir de son travail expérimental, invente le complexe d'Édipe. Et que le complexe d'Édipe, il invente cette histoire de ce petit enfant, de ce petit garçon et de cette petite fille, pour les besoins de la cause. Il invente un outil pour réussir à travailler en psychanalyse, et à chaque coup, en psychanalyse, il s'aperçoit, après coup, que ce qu'il a découvert peut être compris à travers cette loi qu'il a inventée. À ce moment-là, s'il l'a inventé, on est en pleine subjectivité et en pleine croyance. Freud croit à ce qu'il a inventé. Et c'est de nouveau un coup de génie dans son domaine propre, mais il ne s'agit plus d'une loi naturelle, il s'agit d'un outil créé par Freud, il ne s'agit donc plus de déterminisme absolu. Cela dépend de l'observateur ou de l'analyste, de l'expérimentateur et de sa subjectivité. Bien entendu, moi je suis pour cette seconde formule, parce que je pense que le côté après-coup est tout à fait génial dans la psychanalyse, où on invente, on retrouve ce qu'on invente, et j'ai beaucoup de peine à croire que pendant 10 000 ans, même avec les sciences les plus déterministes et les plus convaincantes, l'Édipe ait existé sans que personne s'en soit jamais rendu compte. Et même dans l'actualité, finalement, il n'y a que ceux qui veulent bien le croire, qui croient, par exemple, à la castration. Ça n'est pas du tout une loi universelle, aujourd'hui encore. Donc, le déterminisme scientifique de Freud est parfaitement battu en brèche à ce niveau-là. Le problème de l'évitement de la participation affective, donc restons scientifiques, même si on reste subjectif, avec notre intelligence, mais pas les humeurs, met en valeur une différence entre Flournoy et Freud. Flournoy essaye, devant les phénomènes surnaturels d'Ellen Smith, de démasquer le naturel. C'est ça qu'il veut trouver. Il veut trouver pourquoi c'est surnaturel, c'est faux, c'est pas vrai, il y a quelque chose de naturel qu'il faut trouver. Et ce surnaturel n'est pas nécessairement d'origine naturelle et d'origine Ellen Smith. C'est-à-dire que ce surnaturel n'est pas nécessairement humain. Ça veut dire qu'en démasquant le naturel, il y aura toujours un noyau surnaturel qui pourra rester, et ce noyau-là pourrait être du domaine des croyances. Il pourrait être du domaine, par exemple, religieux ou philosophique, donc pas du tout scientifique. Là, il reconnaît que le côté non scientifique existe, mais ce n'est pas son propos direct, puisque son propos direct, c'est de démasquer le surnaturel dans les expériences d'Ellen Smith. Par contre, chez Freud, il fait la même démarche, il va aussi réduire le surnaturel, c'est-à-dire ses symptômes incompréhensibles, par exemple, au naturel. Mais ce surnaturel, chez Freud, est nécessairement humain. Il exclut quelque chose qui serait hors de l'humain. Le surnaturel, on peut dire, est lié à la mégalomanie. Le surnaturel provient de la mégalomanie de l'homme, c'est-à-dire du bébé qui se prend pour tout puissant et qui va donner les tyrans, qui va donner la religion, qui va donner Dieu, etc., l'Église. Donc le surnaturel est réduit chez Freud à la mégalomanie humaine, tandis que le surnaturel chez Flournoy, qu'il essaye aussi de réduire, reste quand même, il y a un noyau surnaturel que lui estime qu'il ne pourra jamais réduire, qu'au contraire, auquel il s'intéresse. Alors, avec ces tendances déterministes, réduire absolument au naturel chez Freud et chez Flournoy, on ne peut quand même pas échapper indéfiniment aux grandes questions. Bon, on les a déjà vues. Alors, les grandes questions, comment y répondent-ils approximativement ? Chez Flournoy, c'est une réponse en négatif. La grande question, il explique ceci comme ça, dans sa loi qu'il emploie pour son travail scientifique, qu'il appelle l'exclusion du transcendant. Alors, l'exclusion du transcendant implique en négatif quelque chose de bien précis, ça implique le transcendant lui-même. Alors, ceux qui ont lu le livre, peut-être l'ont vu bien clairement, ce que Flournoy décide de faire, c'est pour sa visée scientifique, réduire à tout prix le surnaturel et les pouvoirs surnaturels des médiums, d'Ellen Smith, donc exclure tout ce qui peut être transcendant, mais pour son espoir personnel, c'est avec ça, finalement découvrir, à force d'exclusion, un véritable transcendant. Et à ce moment-là, il aura découvert quelque chose de surnaturel qui sera du vrai surnaturel, et c'est ça qui lui ferait plaisir. Et alors ce qu'on voit, pourquoi je dis transcendant, c'est parce qu'il ne va pas découvrir chose intéressante, par exemple, que Dieu existe ou que l'éternel existe. Mais ce qu'il va découvrir, c'est l'éternel qu'il cherche. Il va le découvrir chez Ellen Smith, c'est-à-dire dans l'individu lui-même. À force d'épurer le surnaturel d'Ellen Smith, il espère que dans cette expérience, Ellen Smith lui fera découvrir l'éternel, donc qui serait quand même transcendant à Ellen Smith et non pas objectif, comme l'était Dieu qui était dans la voûte céleste, en dehors de toute influence humaine. Chez Freud, le surnaturel aussi, Freud répond, me semble-t-il, par une double négation. Il est deux fois négatif. Dans sa première négativité, il élimine le transcendant en disant non, il s'agit de mégalomanie. On a affaire à la mégalomanie infantile. Donc c'est une théorie fondamentalement anthropocentrique. Et deuxièmement, grâce à la psychanalyse, deuxième négativité, il élimine la mégalomanie. Qu'est-ce qui reste? Une fois la mégalomanie éliminée, il reste un désir. On retrouve le désir qui n'est pas satisfait par la mégalomanie. Désir de quoi ? Désir d'un manque. De quel manque ? Et c'est de nouveau anthropocentrique, parce que ce manque serait quand même au cœur de l'homme. Ça n'est pas extérieur comme le manque d'un dieu extérieur, d'un divin. Alors, ce qui pourrait combler ce manque, eh bien, en psychanalyse, c'est rien. On ne sait absolument pas ce qui pourrait le combler, parce que tout ce qui le comble, c'est faux. C'est donc quelque chose qui est à la fois chez l'homme, mais qui est en même temps transcendant, puisque il transcende la science de Freud, qui ne peut pas nous dire quel serait ce qui comblerait le manque que caractérise le désir de l'homme que Freud a retrouvé à travers la psychanalyse. Alors, pratiquement, la découverte et la démystification de cette espèce de fraude qui est le surnaturel d'Ellen Smith ou qui est la mégalomanie des gens avec leurs symptômes par rapport à Freud l'observateur, pratiquement, ce discours va déboucher sur quoi ? En psychanalyse, essentiellement sur des constructions et des reconstructions. Et aussi, chez Flournoy, constructions et reconstructions, qui sont des explications causales des productions symptomatiques ou des explications causales de ces excroissances symptomatiques qui seront désormais inutiles dans la mesure où leur production n'est due qu'à l'oubli, l'amnésie infantile sous l'effet de la sexualité, etc. Autrement dit, cet oubli, cette amnésie infantile, c'est une sorte de falsification des lois naturelles. Si on construit, si on reconstruit, on va reconstruire le passé de l'enfant et on va voir que tous ces effets surnaturels, tant chez les patients de Freud que chez les médiums de Flournoy, n'ont plus leur raison d'être. Maintenant, là, il y a un nouvel aspect propre à Freud, et pas seulement propre à Freud, mais propre à nous, qui est l'aspect, et pas de Flournoy, que Flournoy n'a pas développé, qui est l'aspect de l'interprétation. Alors, l'aspect de l'interprétation pose un certain problème. Parce que moi, je le mets dans le contexte d'une autre science, qui est une science dialectique. Une science dialectique ou herméneutique. Pourquoi l'interprétation serait herméneutique ? Parce que l'interprétation est destinée à découvrir un sens. Un double sens, c'est-à-dire que les symptômes, même si on va les réduire à rien du tout avant, ces symptômes ont un sens pour le patient, et non, ils ne sont pas insensés, c'est ce que Freud ne cesse de nous répéter, mais aussi, ils ont un sens dans le sens que ça dirige la vie du patient dans un sens ou dans un autre. C'est donc ce double sens-là. Et interpréter, selon moi, devient fondamentalement différent de Deutung, je vais vite vous dire pourquoi, parce que je pense que le mot interpréter a la connotation inter et prêter. C'est-à-dire l'analyste prête quelque chose au patient en interprétant que le patient peut lui renvoyer, ce qui est totalement différent comme projet que celui de la construction et de la reconstruction. C'est un projet transformatif. Je pourrais dire que à travers le présent de l'interprétation, quelque chose va circuler d'un passé hypothétique à un avenir incertain. Donc, il y a quelque chose de temporel là-dedans. Et au point de vue espace aussi, on pourrait dire que à chaque interprétation, il y a une modification dialectique de l'équilibre analyste-analysant, qui est un équilibre précaire, mais que chaque fois, il y aura un nouvel équilibre qui ne sera pas de type cumulatif cette fois-ci, mais qui viendra annuler le précédent et le remplacer. C'est là qu'il y a cette idée de modification dialectique qui me paraît le propre de l'herméneutique telle que je la comprends, qui ne serait pas donc la recherche du sens des livres anciens, mais la recherche d'un sens actuel dialectique de ce qui se passe entre les deux sujets. Si vous prenez un exemple très simple d'interprétation, où, par exemple, le psychanalyste tente de montrer à l'analysant que l'analysant se méprend sur lui et qu'il s'agit, en l'occurrence, de sa mère et non pas de l'analyste à qui l'analysant s'adresse. Alors, on peut prendre cette idée-là exactement dans les mêmes termes et y voir soit une reconstruction, je suis en train de boucher ou de reconstruire, de mettre une brique dans le passé de ce patient qui est celle qui manque, c'est-à-dire justement cette mère qui n'a pas perçu, il va pouvoir la prendre et la remettre dans son histoire, c'est une reconstruction, ou bien ça peut être une interprétation, et là je crois que c'est une reconstruction de type Deutung, de type interprétation, ou bien ça peut être une interprétation si moi, la disant, je ne suis plus le scientifique qu'il représente, mais si j'ai une subjectivité qui fait que je refuse d'être la mère. Je ne veux pas, et c'est pour ça que je dis, c'est en effet la mère que vous voyez. Mais Flournoy et Freud restent parfaitement néopositivistes sur ce sens-là. Flournoy dit que la découverte de ces causes va faire s'évanouir le surnaturel. Donc ce qu'on va découvrir sera un surnaturel en moins ou un naturel mieux construit en plus. Et il s'excuse s'il a participé de manière affective. Il dit j'ai une participation affective, excusez-moi, c'est bien involontaire. Voilà comme il fait. Freud, lui, refuse sa participation affective. Il parle de Deutung et de construction, et effectivement, elles sont très proches l'une de l'autre. Elles se confondent, car dans l'exemple que j'ai donné, Freud n'est ni la mère, ni le négatif de la mère. Il montre la mère, il montre le négatif de la mère. Lui, il est en deçà, et il fait découvrir une erreur. Et il fait découvrir à l'analysant son transfert. Et s'il parle de contre-transfert, il ne s'agit pas du transfert de l'analyste, il ne s'agit pas, c'est comme chez Flournoy, il ne s'agit pas du fait que l'analyste a eu une enfance, que Freud a eu une enfance qui fait qu'il involontairement se trouve pris dans la situation, ce qui serait du transfert de sa part. Il dit non, c'est du contre-transfert, c'est-à-dire que si ça se passe, ça a été induit par le patient. Autrement dit, lui reste en dehors au point de vue de sa subjectivité et de ses émotions. Alors, entre les deux, vient moi, peut-être vous, où je crois savoir qu'en disant une interprétation pareille, je ne veux pas être la mère. Parce que je crois savoir aussi que si le désir du patient serait d'être la mère ou qui est la mère, si je le comprends, c'est que pour moi aussi, c'est mon désir d'être la mère. Et que ce désir, pour des motifs professionnels et pour des motifs d'analyse, je vais le refuser dans la mesure où je l'ai reconnu chez moi aussi. Donc, dans mon interprétation, ça ne sera pas seulement « vous vous trompez », ça sera « je ne veux pas, moi, être pris pour celui que vous m'imposez quand vous vous trompez ». Et en refusant l'accomplissement du désir, eh bien, nous restons tous dans le manque du désir. Il n'y a pas de désir satisfait. Mais alors, chez moi non plus, il n'y a pas de désir satisfait. Il semble que chez Freud ou chez Flournoy, en éliminant leurs humeurs, on pourrait dire que, dans un sens, leur désir est satisfait par leur interprétation. Et que veulent-ils? Que cherchent-ils? J'y reviens, toujours ces grandes questions, avec ces constructions et maintenant avec ces interprétations. Flournoy, on l'a vu, c'est épuiser les ressources scientifiques pour laisser éclater le transcendant. Chez Freud, c'est plus difficile. Qu'est-ce qu'il veut? Par exemple, est-ce qu'il veut que le patient redécouvre cette mère? Non, parce que s'il la redécouvre, c'est une illusion. Et là, on est bien en peine de savoir ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut la guérison? Il semble que non, le problème de la guérison fait sombrer la psychanalyse dans une technique médicale qu'elle n'est pas. Est-ce qu'il veut le conscient? Mais qu'est-ce que c'est qu'un fonctionnement psychique qui n'a pas d'inconscient? Est-ce qu'il veut le plaisir? Mais le plaisir, on sait bien qu'il est intolérable. Il veut le renoncement au plaisir, c'est insupportable. Le renoncement aux défenses, non, parce que le renoncement aux défenses, c'est la folie, c'est la psychose. Qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il veut rien, puisqu'il veut que le désir puisse ressurgir et que ce désir, c'est un désir sans objet. C'est un désir de rien. Ou plutôt, moi je dirais peut-être que ce n'est pas un désir de rien, mais que c'est peut-être une musique d'avenir. Que ça serait un désir qu'il ignore, ou tout au moins dont il ignore ce que le désir veut, et un désir qui ne se fait connaître que par son manque, manque de quelque chose qui appartient au patient, et que le patient seul peut désirer tout en l'ignorant, de nouveau, quelque chose de transcendant qui n'apparaît comme négatif que comme un manque. Quelque chose de transcendant à l'analysant qui le transcende alors que ça le concerne intimement. Je refais un retour à la science. Vous voyez le va-et-vient. On a encore le temps? Oui. Je vais vous dire quelques mots d'un autre problème qui nous fera avancer un tout petit peu.